Vous avez beaucoup parlé d'autogestion. On a parlé du rôle central des femmes également. J'aurais voulu savoir si des rapports existent avec d'autres situations similaires où justement on voit des luttes extrêmement offensives menées également par des femmes. Je pense au Kurdistan, notamment au Rojava. Et je pense aussi à l'EZLN au Mexique. Et je me demandais si effectivement, d'une manière ou d'une autre, des rencontres, des échanges avaient cours avec des groupes de personnes organisées au Venezuela.
Je ne sais pas pour le Rojava, mais en tout cas, il y a eu, il n'y a pas longtemps, une énorme rencontre à Caracas de tous les mouvements, les grands mouvements sociaux latino-américains anti-impérialistes. Donc il y avait par exemple le mouvement des paysans sans terre, je ne sais pas par rapport au Mexique, mais enfin, je ne sais pas toute la liste qu'il y avait là, mais c'était vraiment c'est des événements très très importants qui réunissent énormément d'organisations sociales. C'est vrai qu'on n'en entend pas trop parler, mais je pense que si tu regardes, peut-être que je peux t'envoyer, tu avais lu un article là-dessus, je pourrais t'envoyer, je note juste, et puis effectivement, il y a énormément d'échanges qui se font. C'est vraiment nous, les Européens, qui sommes un peu à côté de la plaque, hein, pour le coup.
C'est vrai. Oui, alors, oui, effectivement, en 2017, je suis allée pour la rencontre, donc c'était la journée mondiale de solidarité avec le Venezuela. Le mois d'octobre 2017, et aussi on était 120 pays représentés et des mouvements sociaux, des partis, énormément de femmes. J'ai le souvenir encore de, par exemple, des femmes du Congo qui étaient avec le petit-fils de Patrice Lumumba. C'était vraiment extraordinaire parce que c'était des femmes qui c'était des travailleuses et qui avaient compris le rôle de vie de la femme dans les sociétés. Donc oui, effectivement, il y a énormément de liens. C'est incroyable. On connaît tellement de monde, des pays où on n'aurait jamais pensé. Oui, c'est qu'on doit être plus attentif aussi nous-mêmes, ici, c'est une autocritique, on doit dire, de faire connaître plus ce genre d'activités qui peuvent être aussi intéressantes pour nous, pour développer nos différents projets ici.
Juste rajouter à ces deux interventions, le lien très fort qui existe entre le gouvernement du Venezuela et les divers mouvements sociaux à travers le monde est extrêmement fort. C'est des liens qui se sont tissés depuis des années. Donc c'est des liens qui sont extrêmement forts. Par exemple, l'organisation de Patricia Alba Suiza est une organisation avec laquelle l'ambassade a énormément de plaisir à travailler parce que c'est une organisation qui amène toujours des projets, qui amène toujours sur le devant des activités, faire des débats, dénoncer des blocus, ils font des banderoles, ils vont en manifestation, ils font cette présence de mouvement social. Et voilà, c'est des images qui font le tour du monde au sein de la solidarité pour atterrir à Caracas. Les gens le voient sur leur téléphone et ça leur fait chaud au cœur aux Vénézuéliens de voir ce genre d'image-là. Sur les personnes qui ont voyagé, visité le Venezuela au cours des dernières années, on a eu Karine de Fries, ancienne présidente d'Alba Suiza, on a eu Patricia, on a eu Amanda, on a eu Laura, et on a eu Walter Suter, Miguel Villafranca et Martin Kohler. C'est tout. Donc il y avait beaucoup plus de femmes qui sont allées. Et puis, je voulais aussi vous dire que le Parti Suisse du Travail, l'organe national, a décidé de rejoindre le réseau européen de solidarité avec la révolution bolivarienne qui s'est créée à Bruxelles. C'est un réseau qui regroupe plus de 90 organisations, partis politiques, mouvements sociaux qui se coordonnent au niveau européen afin de mener à bien les campagnes. Donc la dernière campagne en date qui a été menée, c'était sur Twitter. C'était Trump débloque le Venezuela et c'est devenu tendance dans la journée. Tout le monde dans tous les pays a réussi à faire une campagne. C'est des campagnes sur des réseaux sociaux qui ne coûtent pas énormément. Et là, on se rend compte de l'impact que cela peut avoir et on se rend compte de l'impact et de l'importance du réseau de solidarité sur l'Europe parce qu'on a de plus en plus des gens qui arrivent à voir des vidéos qu'on ne voyait pas avant. Hein, on voit par exemple les résistants à l'ambassade de Washington qui sont à l'intérieur. Refusent de faire entrer la nourriture, ils sont obligés de lancer un sac Et très vite, il y a quelqu'un qui va l'attacher avec une corde et puis c'est monté à l'ambassade. Et donc la personne, elle a été inculpée, arrêtée, relâchée. Elle est revenue pour dire non, on va continuer à les aider, on va continuer à les aider à résister. Donc c'est vraiment des éléments qui sont ultra importants. Et ce genre d'événement, l'engagement des camarades pour le Venezuela, pour les Vénézuéliens, c'est quelque chose d'énorme. Par exemple, Amanda, avec la brigade, a pu amener à Terra TV un don. Donc, à la base, il y avait un don, une monnaie qui allait être donnée. Et en fait, Thierry Derolle lui-même a dit, mais écoute, moi, ce qui va le plus m'aider, c'est que vous achetiez des téléphones portables qui arrivent à filmer en HD et que vous nous les ameniez. Je pense que c'est à peu près la somme que tu m'as dit qui va arriver. Donc, je trouve ça phénoménal parce qu'il sait qu'il y a un blocus, etc. Il profite de cette occasion-là et on sait directement où vont les fonds. Et il me dit, avec ça, on va créer deux équipes de montage. Et ensuite, on a envoyé aussi des micros, des enregistreurs son. Donc, il y a deux équipes de Terra TV en plus qui se créent là et puis qui vont produire de plus en plus de portraits.
Ce portrait, ils l'ont publié il y a 2 jours avec le nouveau matériel.
Donc, voilà, c'est quelque chose de très concret. Et pour eux, ça leur change la vie, quoi. Clairement, ils peuvent communiquer de leur point de vue, leur réalité. Et ça, pour nous, c'est quelque chose qui est d'une richesse extraordinaire, pour savoir le quotidien du Venezuela.
Enfin, juste dire aussi par rapport au lien, à la brigade, il y avait beaucoup de camarades des pays africains, arabes. Il y avait par exemple un camarade sahraoui, il y avait des Palestiniens. Et puis, moi, j'ai beaucoup apprécié le fait qu'il y avait des camarades états-uniens et canadiens. Et eux, ils sont... Donc, un des États-Unis, quand il est rentré aux États-Unis, il s'est fait fouiller, consulter son téléphone portable, confisquer son téléphone portable, etc. Et maintenant, je suis en lien avec lui sur Facebook. Ces gars, ils font une lutte, mais hyper difficile dans un pays où vraiment, c'est pas évident de dénoncer ça. Hein. C'est vraiment, ils sont dans le ventre du monstre et puis ils sont admirables. Et moi, j'ai trouvé ça super.
Moi, j'avais une question. Qu'est-ce qu'on peut répondre au discours de certains gauchistes qui disent « Ah, nous, on n'est ni pour Chavez, ou la révolution bolivarienne, ni pour les USA. »
C'est
discours nini.
On pourrait dire, en septembre 3, vous auriez dit « ni Allende, ni Pinochet. »
Dans l'Antiquité. Ouais. Ni Spartacus, ni Crésus.
Ouais. Ni l'apartheid, ni Mandela.
Il y a par exemple Carolus Vimer, c'est le représentant international du Parti communiste du Venezuela. C'est lors, pas du dernier, celui d'avant. Donc à Berne, on a organisé un petit débat, etc., avec les représentants des mouvements sociaux qui sont proches de la révolution bolivarienne. Et Carolus Vimer a pu partager son analyse et son vécu, mais du point de vue du Parti communiste du Venezuela, qui est très critique vis-à-vis du gouvernement. Mais c'est effectivement une richesse, cette critique, puisqu'elle aide à faire avancer la révolution. Donc Carolus Vimer, qu'est-ce qu'il disait? Il disait que face à l'impérialisme, la seule réponse valable, c'est l'unité face à l'impérialisme. Il n'y a pas d'autre option que d'être unis et faire front contre l'impérialisme, parce que l'impérialisme produit du fascisme. Donc, le nini, il nous amène en fait à laisser faire l'impérialisme et à ne pas l'affronter. Donc, je crois que c'est un élément qu'il faut garder en tête, et ça explique notamment pourquoi il y a autant de solidarité autour du Venezuela, parce que c'est un front commun anti-impérialiste, justement.
Justement,
j'ai
parlé avec l'intérieur, comment est-ce qu'il y a des données là-dessus ? Est-ce qu'il existe une alliance militaire des latinos ?
Il n'y a pas d'alliance militaire qui existe. Il n'y a pas d'accord style OTAN qui existe. Notamment, je pense surtout par le fait que les États-Unis veulent à tout prix éviter ce genre d'alliance. Hein. Donc, les États-Unis ont des méthodes de travail qui pénètrent les sociétés très à fond et arrivent jusqu'à une certaine mesure à faire capoter, saboter. Beaucoup de projets. Là où il y avait peut-être cette possibilité-là, c'est quand il y avait Fidel Castro, Hugo Chavez, là il l'aurait pu avoir, mais il n'y avait pas cette nécessité, parce qu'en fait, si vous voulez, c'est quelque chose que le latino-américain, je pense, ressent quelque chose comme si les États-Unis attaquent un pays latino-américain, c'est le continent qui va s'enflammer. C'est-à-dire qu'on ne peut plus toucher militairement à l'Amérique latine. Le latino-américain n'accepterait plus. Et même si les armées sont contrôlées par des gouvernements fascistes et puis qu'ils laisseraient faire les troupes US, parce que les gens vont réagir, les gens sortiraient dans la rue, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Et après, on peut imaginer, par exemple, que s'il y a un conflit militaire au Venezuela, on peut imaginer des troupes cubaines qui vont débarquer au Venezuela. On peut envisager des troupes boliviennes qui pourraient pénétrer au Venezuela. Il y a déjà des spécialistes russes de l'armée qui sont là, qui sont surtout en train de travailler sur l'axe des cyberattaques. Donc ça, c'est des guerres de cinquième génération, les cyberattaques. De la guerre non conventionnelle. Et pour l'instant, il y a quelque chose qui est très important qui a été évoqué avant, c'est l'alliance civique et militaire au Venezuela que Hugo Chavez a mis en place très vite après la tentative de coup d'État échouée du 11 avril 2002. Hein, 11 avril 2002, coup d'État, on dit que Chavez a renoncé au pouvoir. En fait, il est emprisonné à Fortiuna, qui est une caserne militaire très importante. Et puis, deux jours après, il y a une lettre écrite de la main de Chavez, signée de Chavez, qui a réussi à filtrer. Et cette lettre disait « Je suis là, je suis président, je vous lâcherai pas, je suis pas parti, je suis emprisonné, etc. » Et là, donc, les rues se remplissent, tout le monde sort, réclame le retour de Chavez. Et de là, sort l'adage « Tout 11 a son 13 ». Le 13 avril, Hugo Chavez a été libéré et s'est entouré de millions de personnes en IS et qui lui communiquaient son amour. Il a été porté jusqu'à Miraflores, le palais présidentiel dans lequel il a récupéré le pouvoir de la révolution. Donc, à partir de là, Hugo Chavez va prendre très au sérieux le conseil qu'avait donné Fidel Castro à Allende, c'est-à-dire qu'il faut avoir le contrôle militaire. Parce que sinon, on connaît le Chili. Donc, il va prendre très au sérieux les menaces impérialistes et à partir de là, il va dire union civique et militaire, c'est-à-dire que c'est des révolutionnaires. C'est des révolutionnaires qui vont avoir une instruction militaire basique. Mais même si elle est basique, c'est une instruction militaire, savoir tenir un fusil, le démonter, le nettoyer, les bases des positions assis, accroupis, couchés pour tirer, les bases de la balistique, et puis c'est tout. Et puis ça fait des gens qui défendent la patrie. Donc s'il y a une invasion, il y a non seulement les 250 000 hommes armés des forces armées bolivariennes nationales, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de miliciens qui seront là pour défendre leur pays. Hein, donc c'est un peu une espèce d'armée volontaire, à l'inverse de la Suisse, dans laquelle on est plus dans une armée de liste, mais obligatoire. Là, c'est très volontaire et les gens, en tant que patriotes, le font bien volontiers. Mais ça aussi, le Vénézuélien est patriote, mais il est internationaliste. Il est très internationaliste. Donc c'est aussi quelque chose... ils ne sont pas axés que sur eux-mêmes, ils sont très ouverts au monde et aident avec un grand plaisir les pays et les autres peuples.
Sur ce qui explique, parce que moi, réellement, cette histoire, j'ai été très pessimiste. Je suis assez informé. Je suis fort bien informé sur les Grecs. Je viens d'Espagne, donc très proche, mais j'aurais pas parié qu'ils auraient pu tenir quelques semaines. Parce que la pression, la pression économique, la puissance, l'appui des Européens, etc., qu'ils puissent tenir. Alors, ils espéraient évidemment qu'elle arrête, lâche le régime. Et puis, n'importe qui, on peut être de droite, de gauche, moi j'aurais parié. On l'aurait lâché. Puis tout d'un coup, ça traînait. J'ai commenté ça avec des amis latino-américains et la plupart, on était surpris. Non, ils tiennent, résistent. Comment est-ce que ça s'explique? Et là, c'est la richesse de votre exposé, vous trois, bravo, hein, c'est qui fait qu'on comprenne pourquoi ils ont quand même. Parce qu'il y a quand même quelque chose de profond, populaire. Il y a les miliciens, 2 millions et 4 miliciens. Est-ce que l'armée, est-ce qu'elle est responsable de l'armée? Est-ce qu'ils vont prendre le risque de tout ça? Parce que ces miliciens, ils ont quand même des armes. Je suppose qu'ils ont des armes uniquement légères, mais ça peut faire des sacrés dégâts. Donc, finalement, Chavez, qui était militaire, il a laissé quand même une structure. Je pense que l'armée vénézuélienne a sa culture propre qui est différente d'autres, qui a été semée par Chavez. Et tout d'un coup, ça devient une force terrible. Ce qui fait que c'est vraiment un fiasco pour les États-Unis.
Ouais.
Et quant aux Européens, qui ne sont, je comprends les intérêts des États-Unis, quelque part, c'est des alliés, c'est des adversaires. Ce que je trouve lamentable, c'est la position des gouvernements européens. C'est des petits merdeux insignifiants. Ces gens-là, ces dirigeants, tous ces gouvernements, compris le monde, ils sont totalement méprisables. C'est rien. Ils sont servis. Je ne peux qu'éprouver qu'un mépris vers l'ensemble de l'Europe qui donne de leçons, de demandes absolues, des valeurs, le droit de l'homme, etc. Tout ce truc, tout le monde. Et ils agissent vraiment, vraiment comme des serfs. C'est minable. Quant à cette extrême gauche qui dit mini, réalité, en politique, le mini, c'est faire le jeu du puissant. Toujours. En politique, il faut à un moment donné choisir. Il faut se salir. Et cette espèce d'arrogance, général, les intellectuels, au pouvoir, je défends mes valeurs. Donc, quelle horreur, Maduro, qui n'est pas universitaire, bien sûr, ça c'est évident, etc. Et même Chavez, c'est de la même chose. Ça, c'est une imposture.
Merci.
Méprisable, c'est l'attitude d'Ignacio Cassis qui a appliqué les sanctions à titre individuel, qui a même pas voulu recevoir l'ambassadeur de Cuba qui a demandé une rencontre, qui l'a fait recevoir par un sous-secrétaire. Et avec toutes les déclarations qu'il a faites, il déshonore la Suisse.
Oui, mais Cassis, c'est un infiltré de la guerre. Je voulais savoir, tu as vu les quotidiens des caractères. Est-ce qu'ils sont conscients qu'il n'y aura pas de guerre ni invasion, il n'y aura que le bombardement, que les États-Unis ne vont pas mettre des troupes à envahir comme ça naïvement un pays armé. Il n'y aura que des bombardements, c'est tout, que détruira tout comme à Gaza, comme partout, que sont la même mentalité de la tsar, c'est de bombarder. Ils ne vont pas se salir
je me permets de répondre parce que, je ne sais pas si tu sais, mais la Russie a vendu les missiles.
C'est le système
de protection.
Système de protection aérienne.
Le
400. Oui, c'est le plus puissant. Oui, c'est le plus puissant. Ouais, je veux dire que deux minutes après le décollage d'un avion ou d'un bombardement ou de n'importe quoi, il était fait. Hein. Je veux dire, oui.
Comme c'est les États-Unis qui tiennent les satellites, les contrôles cybernétiques et tout.
La
Russie, je me méfie un peu.
Juste pour compléter, je t'assure qu'ils sont bien protégés et je ne pense pas que ça sera conventionnel. Cependant, c'est bien probable, comme on l'a dit, qu'il y a des paramilitaires qui peuvent être formés, être des milices paramilitaires d'ailleurs.
Mais en Syrie, il y avait la même chose.
Voilà, c'est probablement ce qui va se passer, mais ce n'est pas la Syrie en ce moment. Hein. Il y a des ces corps des miliciens, 2,1 millions jusqu'à maintenant, et puis à la fin de l'année, ils ont promis d'être 3 millions. Donc il ne faut pas croire que tout le monde. Oui, ils peuvent être armés, mais il y a aussi des gens qui sont beaucoup plus vieux, qui peuvent donner des renseignements, qui font la nourriture, des jeunes. Il y a des gens qui. Enfin, il y a des rôles différents. Les infirmiers, on a besoin de beaucoup de monde. S'il y avait quelque chose comme ça, ils sont préparés, je ne m'inquiète pas. Pour les minis de gauche, je pense qu'on ne peut pas être de gauche et puis être mini. On ne peut pas nier l'existence d'une confrontation avec un système qui est en train de déprédater.
C'est
un système prédateur. On ne peut pas dire, ils sont en train de détruire, mais bon, c'est pas grave parce qu'ils sont gentils. Non, non. C'est pour ça que je disais, le néolibéralisme est une contradiction vraiment de la démocratie. Parce que on dit, les règles du marché doivent être comme si, d'ailleurs, quelqu'un avait dit sur Pinochet, ouais, voilà, Pinochet est en train de violer quelques règles, mais pendant qu'il respecte les lois du marché, on va, après ça va se régler tout seul. Hein? Et puis en réalité, dans le capitalisme, on te demande, tu vas te manger avec la sauce bolognaise ou bien la sauce béchamel. Je dis non, mais ben, j'ai pas envie d'être mangé. Mais c'est pas la question. C'est avec quelle sauce. Donc voilà, ça c'est la réalité. Et puis par rapport à ce que tu disais, d'autres armées de l'Amérique latine, en fait, justement, c'est un désir de Chavez. Et c'est la création d'ailleurs d'UNASUR, Union des Nations Suramériques. Et puis, parce qu'à partir de cet organisme d'Union de l'Amérique du Sud, là-dedans, il devait avoir justement des stratégies communes, des défenses, même militaires. Malheureusement, c'est en train de se défaire à cause de certains gouvernements qui sont très obéissants, ils sont très gentils avec l'impérialisme nord-américain, états-unien, et qui trahissent complètement leur peuple. Juste, je dois le dire quand même, c'est par rapport à la solidarité qui est très importante. Et on parlait des médias. Ici en Suisse, c'est vrai qu'on a aussi des médias qui appartiennent. Malheureusement, il y a 5 oligopoles dans le monde qui contrôlent l'information. Il y a quelques agences qui distribuent la même information à tous les médias du monde. Ça, il faut être conscient. Et ces oligopoles n'appartiennent pas, à une école marxiste, hein, que je sache. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons de la chance. Il y a Internet, il y a les réseaux sociaux qui peuvent être diabolisés, tout ce que vous voulez, mais qui sont très utiles. D'ailleurs, je lisais un truc d'Attilio Boron, un sociologue argentin qui est génial. Il disait, avant, on peut rien faire. Il dit, mais on a ça. Ça, c'est un acte de la communication. Alors, vous faites un truc, vous filmez, il y a 50 000 personnes qui voient, vous faites une photo, vous distribuez. Faites ça. Ça, c'est votre acte de la communication. Donc c'est vrai, on a de la chance. Est-ce que aussi on a de la chance avec les nouvelles générations, ceux qui n'ont plus confiance dans les médias traditionnels. Les médias mainstream ont fait tellement de fake news avec l'Irak, la Libye, en fait, leur révolution à Benghazi, c'est pas celle-là, les armes d'extorsion massive. Donc il y a quand même quelque chose qui est en train de changer et qui est à nous de prendre cette acte qui est importante, mais pour le moment c'est notre seule arme valable pour changer.
Il faut savoir l'utiliser. Parce que le fait d'appuyer pour dire qu'on est contre, c'est déjà promouvoir ce qu'on est contre. Il faut justement l'éliminer, l'ignorer.
Là, j'ai une question. Oui, encore merci pour votre présentation et tout. Moi j'avais juste une expérience à vous partager très rapidement, puis une question. Il y a eu une conférence de l'opposition à l'Institut, Graduate Institute, là à Genève. Moi je suis allée voir, j'étais complètement hallucinée quand on parle de guerre médiatique et tout. Ils ont osé montrer, c'est l'Institut de droit international, quoi. Donc il y avait la personne qui a été nommée par Guaido comme son ambassadrice ici à Genève. Déjà, elle ne s'est pas présentée en tant que telle. Elle n'a pas osé parce qu'elle n'a pas le droit, voyez. Mais elle s'est présentée comme une promotrice de l'initiative vénézuélienne, une espèce d'organisation pour les droits de l'homme. Donc elle était là, accompagnée de deux professeurs de Berkeley, des groupes principaux, et une personne de l'OIM, de l'Organisation internationale des migrations. Alors, donc, c'était une petite salle, c'était très très chic, hein, c'est ultra chic et tout. Moi, ce qui m'a frappé déjà, c'est que la moitié des personnes, c'était des gens acquis, nos opposants, c'était la famille, super bien habillée, mais c'était vraiment, voilà. Et il y avait les étudiants, voilà, quelques étudiants qui étaient là, et bon, moi, j'ai fait partie. Alors, moi, ce qui m'a halluciné, c'est au niveau de l'information, déjà. Leur discours était vide, mais vraiment vide, vide. Je me suis dit, si un étudiant ne connaît pas le Venezuela, il va se poser des questions. Déjà, la dame en question, elle soutenait que Guaido était élu sur un vide, comment on dit, constitutionnel, vacuum, c'était en anglais, hein, c'était tout en anglais, vacuum. Alors là, déjà, ça m'a vraiment, voilà. Mais elle osait soutenir une ligne, mais vraiment, qui tenait pas. Au niveau de l'international, des médias, ils ont montré un PowerPoint, ils ont mis toutes les manchettes des journaux internationaux, comme quoi il y a la crise humanitaire, vous voyez, des trucs bien alarmistes et tout. Et ils ont osé montrer alors, une photo qui a été divulguée fin avril par un média espagnol, ABC, d'un enfant qui était squelettique, oui. Mort de faim et tout, comme quoi c'était une victime de la crise humanitaire. Et cette photo, c'est une énorme fake news parce que c'est une photo d'un enfant yéménite. Ouais. Voilà. Donc ils ont montré ça. Et donc ils se basent sur ça. Voilà. Et puis, bon, les professeurs de droit, bon, ils disent que ce qui se passe au Venezuela, c'est pas bien ce qui se passe, qu'ils ont vraiment besoin de l'aide. Que les Vénézuéliens ne peuvent pas s'en sortir tout seuls, ils ont vraiment besoin de l'aide internationale. Ils n'ont pas nommé les États-Unis, ça c'est intéressant. À aucun moment ils ont parlé des États-Unis, mais ils ont besoin de l'aide. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre qui m'avait frappé? Le représenté de l'Organisation internationale de migration, donc c'est une institution onusienne. Alors lui, il a parlé des migrations, comme quoi il y avait 3 millions, ça c'est, il mettait des chiffres parce qu'il y a eu une migration très forte des Vénézuéliens, mais lui, il mettait que les chiffres, comme ça. Il ne mettait pas de parallèle par rapport aux migrations de Honduras, qui sont nettement plus élevées que... Voilà. Donc il disait juste, voilà, et sous-entendu, c'est la cause de ce qui se passe au Venezuela, à cause de Maduro, à cause du gouvernement. Alors donc voilà, c'était juste pour vous dire, ça c'était fin avril, voilà, c'était à Genève. Voilà. Et puis maintenant pour terminer, donc c'était juste pour partager, voilà, parce que ça fait un contrario par rapport à cette conférence et puis à ce que j'assistais. Donc c'était deux versions, voilà. Et maintenant, ma question c'est au niveau pour la Suisse. Donc est-ce qu'il y a espoir que la Suisse retire les sanctions économiques? Je sais qu'il y a eu des lettres des associations suisses qui ont demandé tout. Où est-ce que ça en est? Est-ce qu'il y a une réponse et tout? Ça, je ne sais pas. Et puis, je voulais savoir si vous aviez quelques nouvelles par rapport à ce que j'avais compris que Ignacio Cassis se mettait intermédiaire par rapport entre la Suisse. Voilà, qui représentait, voilà. Donc voilà, c'était juste ça. Merci.
C'est aberrant. Par rapport au Conseil fédéral, quand on leur pose des questions, enfin quand Denis Darussi, le Conseil fédéral leur pose des questions qu'ils n'aiment pas, généralement ils font une réponse ou ils ne répondent pas vraiment.
Moi je voulais répondre par rapport à la question des migrations. Je pense que c'est vraiment un énorme enjeu de communication. Quand j'étais à Caracas, j'ai demandé à rencontrer une spécialiste en migration, que j'ai pu rencontrer, une spécialiste de la Cancillerie. Et je pense qu'il faudrait vraiment qu'on s'attelle à vérifier ces chiffres, premièrement. Parce qu'en fait, elle m'a dit que c'est des chiffres, il faudrait vérifier, hein, mais elle m'a dit que c'est des chiffres qui sont donnés par les gouvernements où sont les migrants, enfin les immigrés, c'est-à-dire la Colombie, l'Argentine et puis le Pérou. Et donc, c'est pas le UNHCR qui va sur place compter les gens, hein, donc c'est des gouvernements de droite qui donnent les chiffres. Donc, elle m'a même dit que le gouvernement vénézuélien, il n'a pas les chiffres. Parce qu'on ne sait pas. Ils ont complètement ouvert les frontières. Après, la vie de ces personnes, quand elles sont une fois en Colombie ou en Argentine, ce n'est pas le rêve. Hein. C'est encore une autre histoire. Puis après, l'histoire, c'est la cause de ces migrations. Mais déjà, au niveau des chiffres, j'aimerais bien appeler le HCR, parce que le HCR, il dit 3,7 millions, le HCR. Mais ce n'est pas lui qui est allé compter les gens. Et par contre, l'OIM, ce n'est pas une institution onusienne. Hein. C'est à part, et puis c'est contrôlé par les États-Unis. Mais je pense que ça montre bien aussi cette histoire histoire de migration, le rôle néfaste des ONG sur cette question. Moi, je suis encore sortie de mes gonds. Amnesty International relance une campagne contre la crise des droits humains au Venezuela qui a fait 3,7 millions de réfugiés. Mais purée, c'est quand même dingue, quoi, qu'ils osent dire des choses pareilles. Eux qui ont en tête de leur liste des prisonniers politiques au Venezuela, des criminels. Donc ils sont. J'aimerais bien savoir plus d'infos sur cette femme qui est la responsable Amérique de Amnesty International, parce qu'elle est en train de complètement dévier le truc. Enfin là, bon, c'est habituel, mais quand même, il faut être vachement vigilant sur ça. Donc s'il y a des gens qui ont des infos sur cette histoire de réfugiés, moi, je vais contacter le HCR, et je vais demander
Non, mais c'est... d'abord, première chose, si je suis là ce soir, c'est parce que je me soutiens à fond, les Chavez, Castro, je ne suis pas gauchiste, je ne suis pas le turc de chef, les durs, je ne les aime pas. Donc je suis quand même pour l'unité. Hein. Ça veut dire que j'ai moins de vous abonner à Gauche Hebdo, parce que c'est le seul ou un des seuls journaux qui dit je pense la vérité, ça serait déjà la première chose à faire ce soir, de soutenir ce journal-là. Si vous me faites encore des illusions, moi j'ai très mal appris moi. Sur les médias en Suisse, chez nous, les paysans de montagne, ils sont subventionnés par l'État, on ne sait pas dire aussi, ils ne sont pas massacrés pour leur prendre leur terre. Ça n'a rien à voir avec l'Amérique du Sud. Donc ça veut dire qu'on vit une situation, je m'excuse, parfois je me répète, mais on a des camarades qui font des parallèles entre la Suisse, notamment, c'est un moment en particulier, et d'autres pays. J'ai fait mon service militaire parce que j'ai appris à lire quatre pattes et me bagarrer. Et quand on m'a demandé pourquoi je disais un flingue, c'est parce que j'ai dit à mon capitaine qui était Philippe Le Cheval, que j'ai vu une fois ici, parce qu'il soutenait notre référendum pour les caisses dentaires. Je lui ai dit, il n'y a pas de raison que les deux disbarques qui sortent manier un flingue et pas moi, parce que l'armée suisse elle est intervenue plusieurs fois. Je sais qu'ici, je risquais pas que mon argentine qu'on me balance dans l'avion, ou qu'on me fusille, ou qu'on me torture. Donc c'était pas courageux de ma part, mais il fallait quand même marcher avec les autres, monter à l'assaut, puis leur dire que j'étais communard, et puis que le capitalisme c'était ça, et ça j'ai encore des camarades qui viennent ici au 1er mai. J'ai osé, dans la merde où on était, parce que j'étais en infanterie, osé parler. Donc les camarades qui sont contre l'armée, enfin pour l'armée suisse et tout ça, c'est des camarades, c'était des gens sympathiques. Et moi, j'ai appris à manier en flamme en espérant que jamais on aille à l'utiliser. Les camarades miliciens, j'espère qu'ils n'auront pas besoin de l'utiliser parce que mon père, il m'a toujours appris que ce n'est pas la révolution qu'on fait, c'est la contre-révolution qui vient. Parce qu'eux, ils sont prêts à intervenir quand ils en ont envie, comme ils l'ont déjà fait avant. Donc, je m'excuse d'avoir l'impression d'être de nouveau un vieux radoteur. Il y a des fois, on part dans des trucs alors qu'il y a une réalité qui fait que. Voilà, quand tu as parlé des gars qui sont obligés d'apprendre le Viet Cong, c'était pas des pacifistes, on les a obligés à se battre. Voilà, alors encore une fois, ne faites pas de moi je vis 20 minutes, mais je suis aussi abonné à Gauche Hebdo, mais c'est assez cher, je le répète de nouveau, c'est dégueulasse ce qu'ils peuvent marquer dans le journal, c'est anti-chinois, c'est anti-russe, c'est heureusement on connaît tous les incendies qui ont suivi, et puis les mots fléchés c'est gratuit, donc je les fais. Voilà, je m'arrête là, mais s'il vous plaît camarades, arrêtons de rêver. En tout cas, je vous remercie. Et ce que vous faites, ce que les camarades font là-bas, je veux qu'on dise une chose, il y a Ramonet, l'ancien directeur du Monde du Diplomatique, qui a fait un bouquin, et sans question Fidel Castro. Et Fidel Castro était en contact avec Chavez au moment où ils ont encerclé la caserne. Il était avec 350 parachutistes. Donc ça veut dire que c'est des mecs qui savaient se battre. Et Chavez a dit à Castro, j'espère que Castro ne ment pas, il était aussi en contact avec la fille de Chavez, et il dit, qu'est-ce que je fais? Je me suicide comme Allende. Alors en fait, Allende ne s'est pas suicidé, mais on a quand même un peu qu'il m'a massacré. Ouais. Il a dit, écoute, rends-toi, c'est Castro qui a dit, rends-toi, j'espère que ce n'est pas des mensonges. La situation politique en Venezuela n'est pas la même qu'au Chili. Au Chili, dans l'armée, c'était plein d'anciens nazis qui étaient officiers. Au Venezuela, c'est une armée très patriote, nationaliste, et l'anti-Yankee, ça existe quand même. C'est pour ça que quand tu dis que s'ils interviennent, les Américains, peut-être que certaines armées se... Voilà, ouais. Tout ça pour dire qu'il a dit à Chavez, rends-toi, ils n'oseront pas te fusiller. Et c'est bien ce qui s'est passé. Et quand tu expliques qu'à un moment donné, Chavez est en contact avec sa fille et sa fille, bref, ils ont réussi à faire comprendre au peuple qu'il n'était pas mort. Et quand ils ont su qu'il n'était pas mort, c'est là que les gens sont descendus dans la rue pour le soutenir et ils ont été complètement débordés les autres. Voilà. Je vais m'arrêter ici parce que j'ai encore des tas de choses à vous dire. En tout cas, je vous remercie et qu'ils vivent les Chavezistes, le Parti communiste, le Parti du Travail, au château. Et puis, nous avons des gens qui sont aujourd'hui avec des multinationales. Et eux, ils ont su s'unir, même s'ils se bouffent le mou, ils ont des armées et ils sont forts.
Voilà. Juste, Tania, pour répondre à ta question. Donc, effectivement, il y a eu un petit rebondissement au moment où la Suisse déclare. Elle se déclare prête à faire le protectorat des États-Unis, des intérêts des États-Unis à Caracas, auprès du ministère de la chancellerie. Donc effectivement, c'est une question qui est en cours d'analyse au sein du gouvernement vénézuélien. C'est une question qui n'est pas encore réglée. Officiellement, il n'y a aucune réponse, donc on va pas filtrer d'autres informations. Nous, on n'est pas au courant de quoi que ce soit de nouveau. Ce qu'on sait, c'est que on pense que le gouvernement, quand même, est dans une espèce d'analyse de savoir jusqu'où ils peuvent demander de retirer les sanctions qui sont faites contre le Venezuela au gouvernement suisse pour accorder le protectorat à la Suisse des intérêts des États-Unis. Jusqu'où la Suisse serait-elle prête à aller pour représenter les intérêts des États-Unis? Et surtout, quels sont les intérêts de la Suisse à faire cela? Donc ça, c'est des choses qui sont en cours d'analyse pour qu'au gouvernement, il y ait une réponse qui soit donnée. Il y avait eu des courriers donc, qui ont été envoyés à la chancellerie de la part de notamment Alba Suissa et d'autres organisations dont le Parti du Travail aussi, des lettres qui demandaient le retrait des sanctions suisses à l'encontre du Venezuela. Et il n'y a eu aucune réponse de la part de la chancellerie, aucune réponse de la part du ministère des Affaires étrangères. Et puis, il y a eu quelques parlementaires qui ont fait des interventions concernant le Venezuela et le Conseil fédéral, quand il s'est fait interpeller par notamment le député du Parti du Travail.
Denis de la Russie.
Le Conseil fédéral a répondu par écrit que voilà, ils étaient très préoccupés par la situation au Venezuela. Depuis à peu près 2016, il y a eu la perte de l'indépendance de certaines institutions, détérioration de la démocratie, etc. Enfin, c'est les mêmes discours que les États-Unis. Et puis, ils se sont juste arrêtés en disant que voilà, ils suivaient les choses de près. Ils étaient prêts à offrir leurs bons offices aussi dans le cadre de, au cas où il y avait une rencontre, par exemple, entre Trump et Nicolas Maduro, que ça pourrait se faire ici en Suisse. Voilà ce qui pourrait peut-être arriver. Je ne pense pas que ça va arriver, mais voilà, soyez au courant.
J'ai visité le Venezuela avec la famille en une situation donc près et chavezienne, donc à m'allonger, bien sûr, je peux. Mais j'ai constaté qu'il y a un choc de société qu'on peut immédiatement constater lorsqu'on visite ces pays comme le Venezuela ou la Colombie. Il y a un noyau d'origine européenne qui est très très fort, qui est très influent, et que c'est pas pour rien que, par exemple, un des partenaires démocratiques italiens a toujours condamné ces enquêtes. Je dis que Maduro, déjà avant le coup d'État, c'est une position sur le niveau, et il a fait la même opération avec ce qui s'est passé au Brésil. Donc ça, c'est des choses que vous tenez compte. L'autre chose que je pense que vous avez compte, je pense que les États-Unis, donc relevé, mais qui est toujours revenu, c'est pas le moment qu'ils vont attaquer la Corée du Nord, l'Irak, l'Iran et maintenant le Venezuela. Ils vont pas rajouter, je pense qu'il faudra. Donc les États-Unis, probablement, ils vont beaucoup agir sur le voisin, la Colombie et le Brésil. Je n'en ai pas parlé, quelle est ton opinion? Oui, plus concret. Qu'est-ce qu'ils en pensent, les Vénézuéliens, de leurs voisins qui ont des gouvernements qui probablement se seraient très contents de se débarrasser de telles interventions?
Alors, je peux rajouter une petite chose par rapport à la même question. C'est que, bon, j'ai eu l'air. C'était clair, les États-Unis ne vont pas intervenir directement.
l'alternative, c'est vrai que le gouvernement colombien, l'armée colombienne terrienne, ou le Brésil, la Colombie, ils ont la guérilla, etc. Donc c'est très dangereux. La solution pour eux aurait été que le Brésil se dispose. Et Bolsonaro a déclaré officiellement qu'il était prêt à le faire. Seulement, Alors, la nouvelle est la suivante. C'est le commandement de l'armée brésilienne qui a dit il n'a pas question. Et là, Bolsonaro a dit avant la chose. Donc, si l'armée brésilienne dit non, c'est foutu. Il n'y aura pas d'intervention.
Alors, c'est intéressant. Moi, je pense qu'il faut quand même qu'on se rende compte d'une chose, c'est que une intervention US, guerre conventionnelle, de type guerre conventionnelle, c'est quelque chose qui est possible. Je pense vraiment qu'il faut qu'on garde ça en tête, c'est possible. Pourquoi ? Je vais vous le dire. Les intérêts des États-Unis, c'est ce qui est le plus sacré au monde dans la tête de tous les Américains. Hein ? Les Américains, si leur pays, leur armée va faire la guerre, tant que c'est pour l'intérêt US first, America first, ils vont dire, bon, bah, si on est obligé de passer par là, on va passer par là. Ils l'ont déjà prouvé. Il y a eu des mouvements sociaux énormes, des gens qui vont manifester, qui ne sont pas d'accord. Enfin, la guerre contre le Vietnam, quand même, c'était les mouvements sociaux qui sortaient, les citoyens qui se levaient pour dire non à la guerre, qui allaient jusque devant la Maison Blanche, qui faisaient d'énormes meetings. Ils n'ont pas réussi à retenir la guerre du Vietnam. Donc, vraiment, je pense qu'il faut qu'on soit assez clair, c'est une possibilité. Pourquoi ? Parce que les intérêts des États-Unis, c'est avant tout de maîtriser la région, comme l'a très bien expliqué Patricia. Donc ça veut dire que la priorité, tout d'un coup, devient le Venezuela, et on l'a vu, mais c'était flagrant comment le Venezuela s'est devenu la priorité. C'est-à-dire qu'avant, on n'en parlait presque pas, et puis il y a eu ce moment où vous avez tous vu la télévision et on en parlait tous les jours ici en Suisse. Vous ouvrez le journal, des temps, le matin, 24 heures, regarder la télévision, parler du Venezuela tous les jours. Tous les jours, on a été matraqués. Et au bout d'un moment, lorsqu'on me demandait tu fais quoi, tu bosses où, je dis voilà, l'ambassade du Venezuela. Oh mon Dieu, mais comment ça se passe, t'arrives à dormir, tu bosses pas un dictateur. Vous voyez, ils ont réussi. Maintenant, pourquoi il faut diaboliser Maduro, il faut diaboliser le Venezuela pour justifier, pour que l'opinion internationale puisse au bout d'un moment se dire, bon, s'ils interviennent quand même, c'est qu'il y a des raisons. Hein, ils ont fait le coup sur l'Irak, etc. On sait leur méthode. Donc, ils préparent le terrain pour une possible intervention. Les armées latino-américaines, les armées latino-américaines, avec votre commentaire, c'est très intéressant. Je ne pense pas qu'elles soient ouvertes à aller déclarer la guerre à un pays frère. Les latino-américains, quand même, mais malgré que ce n'est pas un seul et même pays, c'est une région, il y a des choses communes. Voilà, non. Donc ils vont être obligés de se salir les mains. Pourquoi ? Parce que s'ils ne se salissent pas les mains et ils laissent faire, ce qui est en train de se passer, c'est la chose suivante, c'est que les intérêts de la Russie, de la Chine, sont de plus en plus représentés au Venezuela. Et donc là, c'est le vrai problème. C'est les intérêts chinois et russes qui sont en train de s'implanter sur le continent. Et une fois qu'ils vont être complètement implantés, en Bolivie, ça sera le problème suivant, la Bolivie, parce que les Chinois sont là, et ils veulent prendre le contrôle du lithium. Donc, si le gouvernement arrive à faire un accord solide, la Chine va venir exploiter cela, les États-Unis vont tout de suite vouloir stopper ce genre d'accord-là. Donc, vraiment, on est sur l'implantation de la Chine et de la Russie en termes géopolitiques dans la région, et les États-Unis voient ça comme une menace extrême, parce que comme l'a très bien expliqué Patricia, la doctrine Monroe dicte que le continent c'est pour eux, et puis que personne n'a le droit de mettre un pied sur leur arrière-cour, parce que c'est leur territoire de jeu exclusif. Ça leur appartient, et c'est donc sacré, c'est pas tout. Donc vraiment, si les États-Unis doivent se salir les mains, et qu'ils doivent partir à la guerre, ils sont capables de le faire, on le sait, l'histoire nous l'a bien appris, donc je pense que si on ne considère pas cette possibilité-là, c'est vraiment commettre une erreur, parce que l'histoire nous a montré de quoi ils sont capables. Et je pense que les Vénézuéliens sont très au fait de la menace qui pèse, que ce soit des bombardements suivis d'une invasion terrestre, par exemple si la Colombie ouvre son territoire. Donc c'est arrivé par la mer, et ils entrent par la frontière colombienne, avec peut-être l'aide de paramilitaires, etc., je ne sais pas. Mais voilà, ça peut prendre diverses formes. Mais voilà, il faut garder ça en tête, je pense que c'est une menace, et ils doivent se préparer, c'est ce qu'ils font.
Je suis d'accord dans la mesure où, effectivement, il voulait asphyxier le Venezuela économiquement, ce que pratiquement nous avons fait. Seulement, il y a des alternatives. Apparemment, il y a des mesures populaires. On arrive quand même à produire, à s'organiser, à faire des choses. Et là, ça va montrer que l'économie ne suffit pas. Je ne sais pas si ça suffit. S'ils sont lâchés. Par contre, ils ne sont pas lâchés. Et s'il y a une résistance qui est tout à fait forte, l'histoire ne va pas se finir. Là, effectivement, et les Juliens arrivent à tenir, il faut se préparer à cette opportunité. Mais ce que je trouve extraordinaire, admirable, c'est qu'ils ont pu tenir, et pu tenir face à cette pression économique monstrueuse.
C'est une résistance admirable. Je pense que c'est l'exemple cubain. L'exemple cubain vraiment a beaucoup apporté à la révolution bolivarienne. C'est-à-dire que comment un peuple résiste alors qu'il se bloque, etc. Et bien ça, c'est des choses qui se discutent entre chancellerie, entre président, entre peuple vénézuélien, les médecins cubains qui sont du Venezuela qui racontent leur expérience, les Vénézuéliens qui rentrent de Cuba.
Pour ajouter quelque chose, c'est la belle question. Il a fait comprendre à Laurent quand il est venu au Cuba. Donc, il préconise un attaque américain sur le Venezuela, parce que c'est la crise, il y aura mieux que le gouvernement se fait comprendre à l'Europe et à la gauche européenne que le Venezuela, ce n'est pas un gouvernement des gens qui vendent la drogue, comme l'a dit officiellement un député du PD. Le Parti démocratique italien a dit qu'il faut abattre Maduro parce que c'est un trafiquant de drogue.
On pourra poursuivre, celles et ceux qui le souhaitent sont tout à fait les bienvenus de poursuivre la discussion autour du dîner qui nous paraît avant de clore.
Alors rendez-vous le 3 juin à Lausanne, à la Maison du Peuple, à 19h pour une conférence avec Romain Bibus, le fameux journaliste français qui a vécu plusieurs années au Venezuela, qui est de retour en France. Et puis qui vient donner une conférence organisée par Gauche Hebdo. Alors notez la date, 3 juin, 19h à Lausanne, Maison du Peuple. On espère que vous serez nombreux, on peut remplir la salle.
Deux ou trois choses déjà. Si c'est possible, et si vous êtes d'accord, j'ai ici quelques petits visuels. Hands of Venezuela, ça veut dire bas les pattes du Venezuela. C'est une campagne internationale qui est lancée. Si vous êtes d'accord, j'ai plusieurs exemplaires. On pourrait faire une petite photo tous ensemble en tenant peut-être cela. Comme ça, on l'enverra à Caracas. Je pense que c'est très important. La deuxième chose, c'est que, comme l'avait rappelé le camarade, donc il y a ce journal Gauche Hebdo. Je pense que ça serait sympa si vous n'êtes pas abonné. De vous abonner, sinon de l'acheter pour le découvrir. Et puis bah, voilà, ça soutient tout le travail que font les camarades. Le 5 au 7 juillet, c'est du 5 au 7 juillet, c'est la fête des peuples sans frontières du parti. Donc n'oubliez pas, il y a les flyers qui sont là, venez nombreux. Et puis vraiment encore merci pour tout. On fait à l'ambassade un petit bulletin qui s'appelle le Venezuela Progressiste, on le sort chaque mois. Donc pour ceux qui seraient intéressés, donc c'est des articles d'opinion, il y a du Marmonet, il y a du Romain Migus, il y a du Maurice Lemoine, pour Investigation, on fait un article, on va aussi les publier là-dedans. Donc si vous êtes intéressés, je vais laisser votre mail, je vous rajouterai dans le mail et vous serez ça chaque premier du mois.
Juste aussi un autre événement, ce sera la production d'un documentaire réalisé par René Leiter qui s'appelle Hojas Sueltas. C'est originellement en espagnol, mais sous-titré en français. Ce sera donc le 5 juin à l'Université de Genève, je vous mettrai la salle, c'est la MR 070. Et à 18h, ce film est dédié, fait en hommage aux femmes qui ont collaboré depuis l'arrivée de Che Guevara en Bolivie jusqu'à l'avènement de Evo Morales. Les femmes qui ont été des grandes révolutionnaires, mais qui n'étaient pas visibilisées, disons. je ne sais pas pourquoi, mais en fait, elles ont été torturées, assassinées, persécutées, emprisonnées. Et elles sont restées dans un anonymat injuste. Et René, cette amie qui est architecte de profession, mais aussi cinéaste, va... Donc après ce petit film documentaire qui n'est pas très long, alors vous êtes invité, je vais essayer de passer à Alexandre les données pour que vous soyez au courant. Et d'ailleurs c'est une initiative du réalisateur avec le soutien de plusieurs organisations de Genève dont Tania fait partie. C'est une association qui s'appelle Por Bolivia Me Muevo, c'est-à-dire aussi en soutien au président Evo Morales et d'autres organisations internationalistes comme Alba Suiza. Voilà. Alors,
merci.